Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus.
Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai?
Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
You're gonna need a bigger podcast.
Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons une fois encore pour nos baguenaudages abyssaux dans les profondeurs troublées de la Sharksploitation. Je vous rappelle brièvement le principe de l'émission. Nous avons sélectionné deux films que nous allons analyser en détail pour en tirer les compétences squalesques et cinématographiques ou squalographiques, c'est-à-dire l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Accompagné d'un petit avis personnel, cela nous permettra de les reclasser dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable, bon, routinier, nul, à fuir. Et alors que les conseils de classe du premier trimestre sont en train de s'approcher, j'ai réalisé la moyenne de la classe pour les 22 films que nous avons traités jusqu'à présent. J'arrive glorieusement à 8,4 sur 20. Et là, soyons honnêtes, ce ne sont pas les deux films que nous allons traiter aujourd'hui qui vont remonter le niveau de la classe. Puisqu'il s'agit de Raging Sharks de Danny Lerner en 2005 et de L'attaque du requin à 5 têtes de Nico De Leon en 2017. Deux productions tout aussi feignantes qu'opportunistes. Alors, prêt à jeter à l'eau ?
Something out there awakened these monsters.
We're going up.
No one goes anywhere.
You don't own the goddamn ocean.
Fire in the engine room.
Survivors. My God.
You killed her, you bastard.
And I swear to God, I'll kill you.
I'm not going out there with those freaking monsters swimming around, all right?
Au milieu des années 2000, les frangins Avi et Danny Lerner, ainsi que leur société New Image, sont à la croisée des chemins. Comme nous l'avions expliqué dans l'épisode précédent, lorsque nous avions abordé Shark Attack numéro 2, le petit studio américano-israélien a connu depuis 15 ans une croissance soutenue sur le marché de la vidéo. Après avoir produit à la chaîne des péloches de tabasse, de kickboxing dans les années 90, ils ont abordé le virage du nouveau millénaire en inondant le marché avec des films de bestioles agressives tournés à bas prix en Afrique du Sud ou en Bulgarie, dont les Shark Attack au kilomètre. New Image en 2005, c'est une affaire qui tourne bien. Qui sort ses 5-6 films par an. Mais soyons honnêtes, c'est pas Dolph Lundgren et des araignées géantes en images de synthèse qui vont te faire avoir ton étoile sur les hauts boulevards. Et chez les Lerner, on commence à viser plus haut, avoir des envies de grandeur. On veut produire des projets d'une toute autre carrure en termes de reconnaissance critique. 16 Blocks avec Bruce Willis, le Dahlia Noir signé Brian De Palma. Mais aligner ce genre de nom, ça fait chauffer le carnet de chèques. Il faut avoir les liquidités qui vont derrière. Parce qu'il s'agit plus de lâcher 2-3 millions de dollars pour avoir un Steven Seagal qui tatane paresseusement du mafieux roumain dans un entrepôt. Ou voir encore quelques has-beens coursés par des rats mutants dans quatre couloirs qui se battent en duel. Non, là il faut le cash flow pour empiéter sur la cour des grands. Et c'est tout de suite plus risqué. L'exemple de la Canon 15 ans plus tôt qui s'est brûlé les ailes jusqu'à la faillite à vouloir se prendre pour la grenouille de la fable et à faire tapis pour financer des projets de prestige signé Godard, elle est encore dans les mémoires. Surtout chez les Lerner qui ont très largement travaillé avec les Golangobus. Alors pour pouvoir développer sa montée en gamme, New Image décide de tirer un maximum sur les coûts de ses séries B qui constituent le fond de son catalogue pour faire la culbute le plus rapidement possible. Et Avi Lerner demande à son frangin Danny, qui a une longue expérience de responsable multitâche, scénariste, producteur, réalisateur, de lui faire un film vendeur mais clairement tourné à l'économie. Et Danny, qui a sûrement dû faire son stage de 3e d'apprenti cinéaste à Hong Kong au milieu des années 80, se dit « Pourquoi s'embêter à faire un film complet alors qu'on peut voler la moitié des scènes dans les productions de la boîte ?» Et nous voici donc, comme pour tout bon film de requin qui se respecte, en orbite autour de Mars dans l'espace. Ah, commencez pas, hein, on fait avec les chutes de péloches disponibles. Un vaisseau extraterrestre à la dérive percute un autre appareil où deux aliens en caoutchouc aux yeux globuleux sont en train de jouer à un genre d'échec spatial. L'explosion qui s'ensuit projette des débris radioactifs dans le triangle des Bermudes où ils sont avalés tout crus par des requins qui deviennent aussitôt enragés. Ouais, bah venez pas me dire que c'est pas le meilleur pitch du monde, hein. Enfin, jusqu'à ce qu'on voit l'exécution à l'écran, hein, ça je vous le concède.
Zone d'impact, triangle des Bermudes, 5 ans plus tard.
Oshona, ici Paradiso, vous me recevez ? Oshona, ici Paradiso, est-ce que vous me recevez ? La ligne est brouillée. Le triangle des Bermudes. Je hais cet endroit de malheur. Savent-ils seulement combien de bateaux ont coulé ici ? Essayez encore, à vos ordres.
Enfin bon, quelques années plus tard, une horde de requins frénétiques attaque la base sous-marine Oshona qui fait des recherches pas très très bien définies dans le secteur. Après avoir croqué quelques plongeurs au passage, les squales bien vénères s'attaquent au câble qui relie la base à la surface, l'isolant ainsi que son personnel en grande profondeur. Aussitôt est mis en place une expédition de secours dans un sous-marin dirigé par le professeur Michelsen, interprété par Parker Lewis himself, Corinne Nemec, en mode total balèque, accompagné d'un responsable militaire bien mystérieux qui semble cacher son jeu. Alors Sam et Gaillard, dans le genre, vous êtes quand même sacrément gonflés. Ce film est une escroquerie magistrale. En fait, ils ont été piochés dans toutes les productions précédentes de la firme, les images un peu chocs qui pouvaient bien passer sur la bande-annonce, et ils rajoutent le tout au forceps dans une histoire qui a été repompée sur Abyss, avec en plus des requins dopés à la méthamphétamine extraterrestre. Et quand je dis au forceps, c'est qu'avec cette méthode, il faut introduire des plans de précédents films sans jamais qu'on voit les acteurs des 10 précédents films. Bah ouais, faudrait les créditer au générique, leur donner des sous à cause du droit à l'image, vous êtes fous ! Alors le montage, de toute façon, bah il faut faire hypercut. Ça se transforme en une véritable bouillie visuelle, pas aidée par une caméra qui semble atteinte de Parkinson un plan sur deux. Alors certes, le montage un peu cut à la Jason Bourne, c'était la mode à l'époque dans le film d'action, mais là, ça devient limite illisible. Non, et puis l'autre problème, c'est que quand vous utilisez des scènes de stock footage, bah ça devient sacrément reconnaissable si vous avez un peu l'habitude des films précédents de la marque. Pour vous donner un exemple, à un moment, les squales s'attaquent à une compétition de surf. Eh ben, c'est autre que celle de Shark Attack numéro 2 qu'on a fait la dernière fois. Le tout remonté vite fait pour qu'on voit pas les héros du précédent film.
Ceux-là ont l'air de former un groupe solidaire, on dirait un banc. Bah, si ce sont des poissons, ils restent en banc, c'est logique.
Oui, mais c'est relativement rare que les requins chassent en groupe, et quand ils le font, c'est entre eux. Il y a plus d'une douzaine d'espèces différentes, là. Non, il y a un truc pas normal. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que ces particules oranges qu'on a trouvées ne me disent rien qui vaille.
Pourquoi ?
Parce que... elles viennent pas de cette planète. Alors, à moins que la NASA n'ait fait une découverte dont personne n'aurait eu vent...
Tu peux parler des petits hommes verts de tes films de science-fiction ?
J'ai mesuré 3 fois de suite la concentration des composants, et à chaque fois, elle a augmenté.
Ça pourrait affecter les requins ?
Peut-être bien. Il se peut que ce soit toxique.
Essaye de découvrir ce que c'est.
Ok.
Bon, à la décharge du film, il reste encore un peu de savoir-faire de l'équipe technique bulgare qui a bossé sur le bousin. Des décors et des maquettes un peu soignées, un certain professionnalisme dans la photo et l'éclairage. La musique de Stephen Edwards, le compositeur attitré de chez New Image, est plutôt efficace en reprenant parfois des moments symphoniques. Alors éventuellement, ça peut faire illusion si vous avez jamais vu un New Image, ou si vous n'êtes pas trop regardant sur la façon dont on tourne un film. Mais globalement, on a surtout affaire à un produit opportuniste qui est fait pour produire une belle bande-annonce qui va claquer en vidéoclub, rafler la mise et s'enfuir dans la nuit les poches bourrées de pesos en ricanant bêtement. Et je vous ai pas encore trop parlé des requins. Mais alors là, en plus, franchement, c'est la honte. En dehors de quelques raccords avec des requins en mousse, la plupart des plans sont des stock shots National Geographic qui ont été déjà surexploités dans toutes leurs autres productions de requins. Et en plus, ils hésitent même pas à nous remontrer 3 ou 4 fois les mêmes plans en changeant juste l'éclairage, voire le sens de l'image. Tout ça pour financer des 16 blocs ou des Black Dahlia qui seront des plantages au box-office, malgré souvent des tournages au rabais, en Bulgarie, dans les studios maison, sous la bannière Millennium Film, la vitrine un petit peu plus cossue de New Image. Vous pouvez quand même dire merci au requin.
J'espère que vous allez m'écouter maintenant.
Ouais, ouais.
À partir de maintenant, vous ne faites rien sans que je vous en donne ma permission.
Pourquoi vous faites ça ?
J'ai le regret de vous dire que vous êtes tombé sur une zone réglementée. Vous n'auriez jamais dû y pénétrer. Vous êtes devenu gênant.
Qu'est-ce que vous racontez ? L'océan n'est pas à vous !
Nous disposons de l'océan comme nous voulons, en particulier quand il est question de défense nationale. C'est justement le cas.
Et pour ça, vous tuez des gens ?
Oh, quelle vilaine façon de présenter les choses.
C'est ce cylindre que vous voulez ?
Oui, merci de l'avoir trouvé pour nous. Bravo. La fusion froide est bien la plus grande découverte de tous les temps. De quoi approvisionner le monde entier en énergie durant les 500 prochaines années. Et cela nous est tout bonnement tombé du ciel, il y a de ça 5 ans.
Pourquoi ne l'avoir pas récupéré avant ? Pourquoi maintenant ?
Parce que nous ne savions pas où il était. Il a fallu que vous tombiez dessus, et nous ne sommes sûrement pas les seuls à être au courant maintenant.
Vous avez ce que vous voulez maintenant, alors laissez-nous partir.
Impossible, je suis désolé. Si la nouvelle devait être ébruitée, on parlerait forcément de vous. Et sincèrement, je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt de la défense nationale.
Bon alors, voyons les qualités squalographiques de Raging Sharks. Originalité, en cours d'acquisition. Faut reconnaître que mélanger des extraterrestres et des requins, bah fallait oser. C'est même à ça qu'on reconnaît New Image. L'histoire, elle est non acquise. Dans l'exécution, c'est Abyss. Ni plus, ni moins. Plutôt moins, en fait. Les personnages, insuffisamment acquis. Ce sont de pures caricatures, avec notamment un Corinne Nemec en roue arrière sur l'autoroute de « Je fais mon taf sans y croire, mais avec un sourire en coin, quand même ». Ambiance insuffisamment acquis. Alors c'est assez frénétique, il se passe toujours quelque chose à l'écran, pour m'y reconnaître, mais c'est tellement brouillon, c'est tellement fichu n'importe comment, que on décroche assez vite. Réalisation insuffisamment acquis. Alors le DVD français est accompagné d'un making-of promo, où les acteurs et le staff technique tressent des louanges à Danny Lerner comme si c'était un réalisateur visionnaire. Non, mais t'as vu ce que tu tournes? T'as vu comment tu le tournes? Tu veux juste faire la culbute financière en utilisant des trucs qui ont été faits par d'autres avant? C'est tout. Requin, non acquis, bon, on a notre tournée de documentaire animalier. Et comme le film s'appelle Raging Shark, ils ont rajouté des grognements de lion au stock shot qu'ils utilisent. C'est ridicule. Mais ridicule! Pourquoi les trois quarts des films de série B sont obligés de faire grogner leurs requins comme des loups affamés? Si ça s'appelle le monde du silence, c'est qu'il y a une raison. Au final, ça fait 5, je vais y rajouter un demi-point pour la musique sympa, quelques visuels honnêtes, pour le travail de l'équipe technique bulgare. 5,5 sur 20, c'est nul. Bon, on va peut-être me trouver un petit peu sévère, mais soyons honnêtes, quand dans un film, tu vois des scènes que tu as vues la semaine d'avant dans un autre film de requins de la même marque, forcément, t'as un peu l'impression qu'on se moque de ta binette. Bon, New Image, vous êtes un peu des feignasses, soyons honnêtes. Vous faites des films pour l'argent, c'est moche. Heureusement, nous allons aborder maintenant des films tournés par des vrais passionnés qui ne feraient jamais ça. The Asylum, l'attaque du requin à 5 têtes. C'est parti.
Beautiful.
Shark attack off Palomino Island.
Jesus.
Is it possible for a shark to have more than one head?
We're gonna catch the shark.
What?
It is worth millions.
We gotta go get this shark.
It's coming back. It's moving fast.
Et en parlant d'opportunisme commercial, l'attaque du requin à 5 têtes, Five-Headed Shark Attack, est une production The Asylum.
Hey, what did you expect?
Porto Rico. Son soleil, ses plages idylliques, sa dette économique, ses requins à plusieurs têtes qui attaquent les bateaux de passage. Face à cette situation, la police reste dubitative. Alors le propriétaire véreux d'un aquarium local se dit que ça serait une bonne idée d'attraper la bête, histoire d'en faire l'attraction principale de son établissement. C'est pas une bonne idée, dit la belle brune océanographe de service. Mais bon, c'est pas ça qui va arrêter le capitalisme en marche. Après quelques compressions de personnel suite aux attaques de la bestiole, le directeur de l'aquarium va recruter un baroudeur local spécialisé dans la pêche aux requins. Ouais, ils ont racheté le scénar de Shark Attack 2 sur le bon coin. Quand je vous disais il y a 2 semaines que Shark Attack 2 c'était ce qui se faisait de plus standardisé dans le film de requins, limite ça devrait être exposé à Sèvres. Eh bien là, on va suivre le modèle pas à pas.
Nous voudrions que vous jetiez un coup d'œil à cela. On a trouvé cette caméra sur le bateau d'où ils ont disparu. Mm-hmm. Nous pensons que c'est un grand requin blanc.
Les requins blancs ne chassent pas leur proie sur des bateaux. Comment ils feraient? Ils voleraient dans des tornades? Oh, c'est bizarre.
Mais les requins comme ça, ça existe? Il paraît que de tels phénomènes sont déjà survenus.
Je crois que le capitaine voudrait savoir s'il est possible qu'un requin ait plusieurs têtes.
Bon, alors on le sait, le truc de The Asylum, c'est que quand ils ont un filon, bah, il exploite jusqu'à la nausée. Depuis que New Image a monté de catégorie pour devenir un studio respectable, The Asylum a repris le créneau du petit film de requin pour la Shark Week de la chaîne Sci-Fi. Donc, il faut faire chaque année 2-3 films, vite tournés, pas chers, avec un concept vendeur. Le tout en tenant les délais, parce qu'il faut livrer pour mi-août. Et quand ils tiennent un truc qui marche, eh bien ils le déclinent dans tous les sens du terme, jusqu'à épuisement du filon. On a eu les méga sharks, on a eu les Sharknado, et là, ils font leur beurre sur le requin multitête. Et en plus, non content de sortir un film de cette série par an, comme c'est déjà du tout cuit, ils rognent visiblement sur tous les postes pour tirer un max de profit à courte échéance. L'attaque du requin à deux têtes était rigolo, relativement imaginatif, se payait quand même Carmen Electra et Brooke Hogan, la fille chanteuse, catcheuse et star de télé-réalité de Hulk Hogan. Le requin à trois têtes était déjà beaucoup plus nul, mais pouvait encore compter sur Danny Trejo et Rob Van Damme pour susciter un début d'intérêt. Là, même pas. On n'a que des parfaits inconnus et le même scénar qui tourne en boucle depuis 30 ans. Non, franchement, je comprends pas. Ou plutôt si, je comprends trop. Les films de requins de chez The Asylum, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau. On sait que ça va être dégueulasse, mais on peut pas s'empêcher chaque année de reprendre une bouteille en se disant que ce coup-ci, ça va être un petit peu meilleur, enfin un minimum acceptable. Et quand on goûte le pinard, on se dit « ouais, ça a un goût de banane, du cuir tanné, rhododendron ». Mais finalement, c'est jamais vraiment du bon vin. Eh ben, les films Asylum, c'est pareil. Ça a un goût d'escroquerie, de spectacle de foire ou de fanfiction YouTube faite sur After Effects, mais certainement pas de cinéma.
Les temps sont difficiles, on est bientôt en déficit. Et le seul moyen de se remettre à flot, c'est avec un spécimen unique. Sinon, c'est la clé sous la porte. Que veulent les enfants? Quelque chose d'original. Des monstres. Je veux dire, n'importe qui avec un masque et un tuba peut voir 80% des espèces qui peuplent notre aquarium. Mais un requin... ça fait du fric.
Bon, que dire sur ce film, à part qu'il m'a fallu 3 fois pour le visionner en entier, tant il était prévisible et soporifique, et que j'ai eu beaucoup de mal à tirer des extraits qui n'étaient pas du pur remplissage utilitaire. Ouais, il y a le requin à 5 têtes. C'est la seule idée du film, même si c'est une mauvaise idée. C'est déjà ça, il y a quelque chose. Alors donc, nous sommes dans l'attaque du requin à 5 têtes. Vous remarquerez que dans les précédents films, je vous ai parlé d'une attaque de requin à 2 têtes, à 3 têtes, mais pas à 4 têtes. Et pour cause, ce n'est pas un oubli, puisque notre bestiau au début n'a bien que 4 têtes. Sauf qu'au milieu du métrage, sans la moindre raison, sans la plus petite explication rationnelle ou scénaristique, il lui pousse une tête au niveau de la nageoire caudale. Ouais, de la queue. 4 têtes devant, 1 tête derrière, et c'est parti pour des heures d'amusement. Tête à queue tout ça. J'ose à peine imaginer comment fonctionne le système digestif de ce truc. Et le pire, c'est qu'ils en font strictement rien dans le film. Ça pourrait être un requin géant standard, ça serait la même. Pourtant, il y a un concept, on pourrait le voir s'amuser à se contorsionner pour choper avec sa tête arrière ses proies, tourner comme une toupie pour niapper des gens de tous les côtés. Bon, que dalle. Ils en font que dalle. Le requin se comporte comme un requin de cinéma standard. Ce qui me laisse penser sérieusement que ça a dû être ajouté en post-prod, dans l'ordre de la finalisation des effets spéciaux, en se disant « on va peut-être pas en mettre 4, on va en mettre 5 ». Ce qui est confirmé par le fait que les personnages ne parlent jamais des 5 têtes, juste des 4 qu'on voit à l'avant. Du gâchis. Et dire qu'il y a quand même 6 scénaristes crédités, hein, fallait ça. Le film est signé d'un certain Nico De Leon, qui est en fait le pseudo transparent de Nick Lyons, un des tâcherons attitrés de The Asylum. Un cinéaste de haut vol, à qui on doit des films aussi définitifs que La Mutante 4, Earthstastrophe, Stormageddon ou Zombie Apocalypse. Autant vous dire un artiste complet. C'est plus un CV, c'est un casier judiciaire. La musique est torchée distraitement par l'inévitable duo Chris Cano, Chris Redenauer, hein, les habitués de chez The Asylum, qui nous servent leurs compositions toujours aussi efficacement interchangeables. Bref, une suite sans intérêt, d'une série qui n'avait de toute façon déjà pas d'intérêt au départ. En attendant de visionner l'attaque du requin à 6 têtes sortie l'année dernière, et sûrement celui à 7 têtes pour l'année prochaine. Ou à 8 têtes, ou à 10 têtes, ou le shark centipède, je sais pas ce qu'ils vont nous faire, et franchement, je m'en fous, je suis pas pressé.
Alors, vous vous connaissez?
Ouais, disons que on a fait de la recherche ensemble.
Ça va, je crois que c'est clair. Est-ce qu'on pourrait parler de ton idée pour le requin?
On va y aller au sonar. S'il est aussi gros que vous le pensez, on le verra facilement. Les requins se contentent de bouffer et baiser, alors on les trouve assez vite, ces petits monstres.
Ils sont classés parmi les célachimorphes.
Ces petits célachimorphes. Désolé.
Vous êtes un chasseur de requins?
On peut dire ça, entre autres. Je fais de la plongée et de la pêche. Du moment que ça mouille, je suis content.
Alors, c'est parti pour les caractéristiques squalographiques de l'attaque du requin à 5 têtes. Originalité, insuffisamment acquis. Un requin de 18 mètres avec une tête sur la queue n'existe pas. Eh bien, pourquoi pas? Histoire non acquis. 10 minutes de blabla, une attaque. 10 minutes de blabla, une attaque. Vous voyez le topo? Personnage insuffisamment acquis. Une bande de Neverbean dont l'actrice la plus connue serait un modèle de fitness, Nikki Howard. Mention spéciale quand même au flic de service, sosie de Kit Harington, Jon Snow dans Game of Thrones, en encore moins expressif. Si, si, visiblement c'est possible. Ambiance non acquis. Non seulement c'est feignant, mais en plus c'est sans saveur. L'office de tourisme de Porto Rico est largement crédité et a dû mettre la main au porte-monnaie pour qu'on présente l'île comme un paradis tropical. Réalisation non acquis. Alors je ne sais pas si Nick Lyons a essayé de se faire passer pour un portoricain en signant le film Nico de Leon, pour peut-être toucher les subventions, mais il n'a clairement pas réussi déjà à se faire passer pour un bon réalisateur. Requin en cours d'acquisition. Au moins le requin il est rigolo avec sa gueule au bout de la queue. Et même si c'est pas toujours super bien intégré, on nous le montre bien, il bouffe un hélicoptère, il dévore ses proies à belles dents, c'est déjà ça. Un total de 4, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit tellement je me suis ennuyé devant le film. 4 donc, c'est nul. Et ce d'autant plus qu'ils n'exploitent absolument pas leur concept, et qu'au final on se retrouve devant un produit d'une fadeur absolument terrible. Alors je sais qu'avec The Asylum faut pas s'attendre à un film de grande compétition, mais là, on est vraiment dans le tout venant, sans saveur, sans envie, sans effort. Eh ben, c'est pas encore les films d'aujourd'hui qui vont remonter la moyenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, normalement, nous devrions tirer les deux prochains films dans la boîte à requins, mais le prochain numéro sera un peu spécial, puisque nous allons faire notre FAQ. En effet, je vous avais demandé dans le précédent épisode de m'envoyer vos questions, soit sur le fil Twitter, @TheUltimateRico, soit sur l'adresse du site sharkparadepodcast tout attaché @gmail.com. Alors je pensais au départ simplement les distiller à la fin des épisodes, mais j'ai reçu quand même pas mal de questions intéressantes. Et au final, eh bien, j'ai pratiquement de quoi faire une émission complète pour y répondre. Ce qui m'arrange d'autant plus qu'on arrive à une période assez charnière pour l'année scolaire, avec beaucoup de copies à corriger, des conseils de classe, des réunions parents-professeurs. Donc ça va me permettre de faire une émission un peu plus rapidement en termes de préparation. Donc d'ici là, vous pouvez encore m'envoyer des questions sur la boîte mail ou sur Twitter, de manière à étoffer la prochaine émission FAQ. Je vous rappelle l'existence de la liste de Quentin sur Sens Critique, hein, qui recense les notes des différents films que nous avons traités dans ce podcast, et quelques recommandations au passage. Vous avez dû le remarquer, j'aime bien la musique de film. Et avec les films de requins, on a souvent l'impression d'avoir la même soupe prédigérée. Pas désagréable, mais qu'on a l'impression d'avoir déjà souvent entendu. Pour comprendre pourquoi, je vous renvoie à la vidéo de Scott Murphy, un professeur de musique de l'université du Kansas, How to imitate a whole lot of Hollywood film music in 4 easy steps. Il y décortique toutes les ficelles pour créer une BO en jouant sur les intervalles, sur les associations mineures-majeures. Il y a des trucs à savoir, et une fois que vous les connaissez, vous n'entendez plus que ça. Et soyons honnêtes, la plupart des compositeurs et arrangeurs qui nous créent des BO au kilomètre pour les films de requins à petit budget connaissent bien ces trucs. Toujours dans les vidéos YouTube en anglais, je vous conseille le Honest Trailers consacré à The Meg, qui résume parfaitement les incohérences du film, et le fait qu'on ne sait jamais si on a affaire à un bon film, un mauvais film, un bon mauvais film ou un mauvais bon film. Vous retrouverez les liens pour tous ces conseils dans l'accompagnement du podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la première FAQ de Shark Parade. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.